Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans un pays comme la France, entre 4 et 5 millions de personnes ont un usage problématique de l'alcool. Pour parler clairement, ces personnes boivent trop, trop souvent, ou peuvent ressentir des difficultés à arrêter, parfois sans en avoir vraiment conscience. Ces parcours de dépendance à l'alcool, ce sont aussi des histoires de vie au pluriel, parce que le patient, mais aussi l'entourage, le couple, les enfants, n'en sortent pas indemnes. Sortir de cette dépendance, ce sont des histoires de soins, à partir du moment où des questions sont posées. Comment arrêter? Comment se soigner? Peut-on en guérir? Comment limiter sa consommation? Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons donner la parole à un médecin qui, depuis des dizaines d'années, accompagne et traite des hommes et des femmes malades de l'alcool. Une longue expérience qui lui a permis de comprendre et surtout d'écouter l'éveil des sens, l'addiction, la rechute, l'accident, la déception, l'autonomie, la fatigue, les disputes, l'abstinence. Une expérience qui permet aussi de trouver les mots justes au moment où la personne dépendante s'adresse à son médecin et cela peut prendre du temps pour lui demander de l'aide. Encore faut-il qu'en face de lui, le soignant ait les ressources, y soit préparé. Ce livre « Histoire d'alcool » est un formidable support pour comprendre avec des exemples, avec humour, avec compassion, ce que l'alcool brise, mais aussi le besoin, le lien entre le malade, son histoire et le produit. Un livre qui s'adresse aux malades, à ceux qui les entourent, et à ceux qui les soignent. Histoire d'alcool, sous-titrée par cette question « Peut-on en parler à son médecin ?» publiée aux éditions du Cerf, que vous avez donc signé, docteur Jean-Pierre Aubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généraliste dans le 18e arrondissement de Paris, ancien professeur des universités de médecine générale, prise en charge de la dépendance à l'alcool, l'expérience au Cameroun. On va donner tout à l'heure la parole au docteur Christian Ayoum, qui est psychiatre et chef de service de psychiatrie à l'hôpital La Quintini de Douala. Et en fin d'émission, toujours au Cameroun, nous parlerons de la conférence interdisciplinaire et transversale de la santé qui se tient jusqu'à samedi à Douala. On va donner la parole au président de son comité d'organisation, le docteur Jean-Louis Nguewa, qui est endocrinologue.
Priorité santé sur RFI.
C'est pas toujours évident de parler d'alcool parce que on croit savoir et en fait on ne sait pas grand chose quand on n'est pas un spécialiste, en tout cas de sa prise en charge. J'ai fait une présentation en interprétant, en reprenant des éléments de votre livre, docteur Jean-Pierre Aubert. Est-ce que ce que j'ai dit était correct ou est-ce que vous avez déjà des éléments personnels à ajouter, justement en vous appuyant sur cette expérience de plusieurs dizaines d'années?
Dans ce que vous dites, et ce qui est vraiment intéressant, je vous remercie beaucoup d'avoir lu mon livre et de l'attention que vous y avez portée, parce que ce que vous en avez senti et ce que vous en avez dit, c'est que l'alcool, c'était une histoire quotidienne, c'était une histoire de la vie de tous les jours. Quand on est en difficulté par rapport à l'alcool, petit à petit, l'alcool devient un tiers dans la vie, un personnage qui s'insinue et qui va modifier complètement notre vie. Et lorsqu'on va découvrir qu'on est en difficulté par rapport à l'alcool, lorsqu'on va vouloir baisser sa consommation ou lorsqu'on va vouloir arrêter, a fortiori, eh bien, il va falloir réfléchir sur la place que prend l'alcool dans notre vie. Parce que si on n'a pas réfléchi en amont, il va y avoir un creux, il va y avoir un vide.
On ne décide pas d'arrêter en claquant des doigts.
Exactement.
Et c'est ce qu'on comprend bien en lisant votre livre, docteur Jean-Pierre Aubert. On fait des rencontres, hein, parce que justement, ces histoires de vie, ce sont aussi, pas des personnages, mais des personnes, avec justement tous ces détails, ces pittoresques, des personnes qui sont très souvent attachantes. On est loin de l'image, je vais utiliser des mots violents, de l'ivrogne, de l'alcoolique qui n'a aucun intérêt. Il y a vraiment derrière des caractères et ces parcours de vie.
Exactement. À dire vrai, c'est pas propre à l'alcool. À partir du moment où vous parlez avec les gens, vous découvrez que les gens ne sont pas enfermés dans des images et dans des caractéristiques simples. Les gens sont des gens complexes, les gens existent et les malades de l'alcool, qui sont eux facilement enfermés dans des images de poivreaux, sont des gens tout aussi intéressants que l'ensemble de la population.
Le médecin généraliste, c'est fréquent que ce soit lui le recours face à un problème d'alcool?
Vous savez, En France, je connais pas beaucoup le monde africain, mais en France, en tout cas, on estime que dans la clientèle d'un médecin généraliste, un malade sur cinq n'est pas complètement libre par rapport à l'alcool. Ça veut dire que je vois tous les jours entre 20 et 30 personnes dans ma consultation. Ça veut dire qu'il y a 4 à 5 personnes avec qui je peux avoir l'occasion de parler d'alcool d'une façon ou d'une autre. Donc c'est extrêmement fréquent.
Est-ce que la question doit être là dans l'interrogatoire de base ? Bien sûr, c'est un entretien. On parle de ses allergies, on parle des antécédents familiaux. Est-ce qu'il doit y avoir, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui, et c'est assez nouveau, la question de la violence à la maison, qui se pose notamment quand on est une femme, ça peut arriver, et ça fait plaisir de l'entendre parce que ça veut dire qu'il y a une sensibilisation sur cette question. Est-ce que vous avez un usage problématique de l'alcool ? On pose toujours la question sur le tabac, mais l'alcool, est-ce qu'on pose la question ?
Non seulement on la pose à la première rencontre avec un patient, mais ensuite on la repose régulièrement. Il ne faut pas oublier de la reposer, ça fait partie des questions standards qu'on pose de façon régulière. Effectivement, vous avez raison sur les violences dans le couple. Il faut également poser des questions sur le sport, etc., qui doivent se reposer régulièrement. Alors, pourquoi demander à un patient quelle est sa consommation d'alcool ? D'abord, il faut le poser d'une façon neutre. Il ne faut pas dire « est-ce que vous buvez ?» Il faut dire « quelle est votre consommation d'alcool ?» C'est une question franche et sincère. Et ça dit deux choses. D'abord, parce que les gens vont nous dire ce qui est leur consommation et que, en fait, la consommation déclarée est presque toujours la consommation réelle. Les gens ne mentent absolument pas sur leur consommation. Et d'autre part, parce que même si vous n'engagez pas la conversation sur l'alcool, parce que le patient, bien évidemment, il est venu pour autre chose la première fois, eh bien, vous avez mis un petit déclic dans la tête des gens.
La porte est là.
Tiens, ce médecin, si j'ai besoin de lui en parler, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et donc ça, c'est très important pour tous les médecins de dire, tiens, voilà, la porte est là, la porte est ouverte, comme vous le dites.
Alors, dans votre livre, justement, vous parlez de l'élément qui peut déclencher l'appel à l'aide, l'appel à la consultation, l'appel au traitement. Vous parlez des accidents, d'une hospitalisation. C'est vrai qu'il faut passer par la case urgence, souvent, pour se faire aider ?
Oh, certainement pas. Je ne pense pas que c'est une nécessité. Je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que bien souvent, les premiers contacts d'un malade de l'alcool avec le système de soins, en rapport avec l'alcool, j'entends, sont des rapports accidentels liés à une crise d'épilepsie, liés à un malaise, liés à une violence familiale. On va se retrouver aux urgences, soit en milieu, le plus souvent en milieu général, parfois en milieu psychiatrique. Et c'est là que, pour la première fois, on va se dire, bah, il s'est passé quelque chose. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas toujours très bien reçu lorsqu'on est malade de l'alcool en situation d'urgence par les services d'urgence.
Alors, il y a les mots qui sont importants. Maladie alcoolique, alcoolisme, usage problématique, dépendance. Et il y a, vous le dites, vous insistez sur ce point, un mot que vous n'aimez pas, c'est rechute. J'ai fait un peu de provocation, je l'ai utilisé dans ma présentation. Vous utilisez réalcoolisation. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, la rechute porte quelque chose qui est rechute. C'est une nouvelle chute. Et donc, il y a une notion de fatalité là-dedans que je n'aime pas, parce que très fondamentalement et très profondément, je pense que la dépendance à l'alcool est une maladie qui a un assez bon pronostic. Je pense que globalement, à partir du moment où on est allé, on a poussé la porte d'un soignant et on a été capable de dire docteur, ou pas forcément docteur, on peut en parler avec une infirmière, avec un psychologue, j'ai un problème d'alcool, on a déjà fait un grand bout de chemin. Et après tout, après, il y a encore un bout de chemin à faire avec les soignants, mais il n'est pas considérable. Et du coup, lorsqu'on a décidé, car certains le font, d'arrêter de boire, il peut arriver, et il va arriver, qu'on se réalcoolise. Il ne faut pas rêver. Les gens ne prennent pas des décisions pour l'ensemble de leur vie. Donc, ils vont se réalcooliser. La durée de la réalcoolisation est plus ou moins longue. Et plus elle est longue, plus elle est délétère pour l'image de soi-même. Mais un patient qui se réalcoolise et qui est capable de reprendre contact avec un soignant, ça va être quelqu'un qui, dans sa mémoire, va être... Ben voilà, je suis malade de l'alcool, je n'ai pas bu depuis 3 mois, et hier j'ai eu un accident. Ça ne va pas remettre en cause son identité de personne qui est dans la sobriété.
Donc c'est bien une étape et pas un échec. Docteur Robert, on va tout de suite donner la parole à un premier auditeur.
Musique. Brazzaville, 93.2 FM.
Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Alors Michel, vous avez 35 ans, vous nous avez appelé et vous nous expliquez que vous buvez à plusieurs reprises chaque semaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire la quantité d'alcool que vous buvez ?
La quantité d'alcool que je bois par semaine, je vais dire par jour, je consomme 4 bouteilles d'alcool de 50 centilitres.
Vous voulez parler de bière, Michel, c'est ça ?
De bière, oui, la bière, voilà.
Donc,
bière.
Ça fait une quantité de 2 litres environ. Vous allez travailler le lendemain matin après avoir bu ça le soir ?
Oui, chaque jour, je vais travailler. Je commence le travail de 7h à 15h30.
Et quand vous buvez le soir, c'est à la maison tout seul ou c'est avec des amis ?
Non, accompagner les amis du travail. Dès qu'on finit, on prend un peu quelques bières et ensuite on rentre à la maison.
Donc vous sortez du boulot, vous allez au bar avec les amis, vous buvez entre vous, vous discutez, c'est un moment agréable. Et après, on rentre à la maison.
Oui, oui.
Et quand vous rentrez à la maison, vous êtes un petit peu gai, en état d'ébriété ou vous vous sentez comment ?
Bon, je me sens toujours bien. Je me sens toujours bien à l'aise. Je prends ma douche, je mange, je m'endors. Mmh. Et le lendemain.
Et vous, quand vous rentrez à la maison, il y a la famille, il y a qui chez vous ?
Oui, il y a la famille. J'ai ma femme et ma petite fille.
Ouais.
Trois ans.
Voilà. Elle en pense quoi, votre femme ?
Non, je rien. Quand elle me sent avec l'alcool, je lui dis toujours que j'étais avec des amis du boulot.
Ouais. Pour elle, pour l'instant, c'est pas grave.
Non. C'est pas grave puisque. À cause, pardon, il n'y a pas de dispute avec elle.
Il n'y a pas de dispute. Ça ne vous change pas le caractère ? Ça ne vous rend pas un petit peu énervé, par exemple ?
Non.
D'accord.
Non.
Par contre, vous sentez des choses dans votre corps. Expliquez-nous ce que ça change, ce que ça crée comme malaise chez vous.
Ce que ça crée comme malaise, tu vois, quand je finis de prendre l'alcool, je m'endors le matin en me réveillant. Mmh. Je sens toujours mon système de battement de cœur, ça change le système. Mmh. Un peu trop vite par rapport à la normalité de la journée.
Ouais.
Et après, je sens un peu des étouffements. Mmh. Comme si j'ai l'air à respirer difficilement. Il faudrait que je prenne encore quelques minutes sur le lit, au moins 10 à 15 minutes sur le lit. Mmh. Et après, c'est là où je vais un peu me rétablir et je prends de l'eau.
Et après, ça passe.
Je prends beaucoup de l'eau. Il faut que je prenne de l'eau glacée.
Il faut vous hydratiez beaucoup.
Pour réfléchir, voilà. Mmh.
Donc, on va dire, vous avez des palpitations, une forme d'oppression. Vous vous sentez déshydraté. Quand vous entendez ça, docteur Jean-Pierre Aubert, c'est ces symptômes que Michel décrit très précisément. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bonjour Michel, je suis impressionné par votre témoignage parce que vous parlez d'une consommation d'alcool régulière, vous en parlez très facilement et vous identifiez extrêmement bien des symptômes qui sont tout à fait courants dans une consommation excessive d'alcool. Alors, elle n'est pas très excessive votre consommation, hein. Si on parle en termes de santé publique, l'OMS dit qu'une consommation à risque d'alcool est une consommation qui est supérieure à 3 verres par jour. Hein. 3 fois, donc si on met de la bière, un verre de bière c'est 30 centilitres, hein, dont 3 fois 30. Vous buvez 4 fois 50. Vous avez une consommation excessive en termes de santé publique. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes dépendant de l'alcool. Ça ne veut pas non plus du tout dire que vous êtes... que vous avez un avenir sombre par rapport à cette addiction, qui n'en est pour l'instant pas du tout une. En réalité, vous avez simplement des symptômes qui sont des symptômes habituels d'une intolérance à une consommation excessive d'alcool. Les palpitations, c'est extrêmement habituel et vous avez tout à fait raison de les associer. Les troubles du sommeil sont très courants. Et puis, l'impression d'étouffement que vous ressentez le matin, elle a possiblement d'autres causes, hein, mais en tout cas, s'il y a un rapport avec l'alcool, c'est probablement lié à cette sensation de déshydratation que vous avez, qui est tout à fait réelle, hein. La consommation d'alcool provoque dans la nuit, c'est-à-dire plusieurs heures après l'arrêt de la consommation d'alcool, une des sueurs importantes et une perte d'eau importante qui fait qu'effectivement on se déshydrate et qu'on va ressentir le besoin d'une hydratation. Pour l'instant, vous êtes parfaitement conscient de ce qui se passe. Vous avez probablement, pour votre corps, une consommation qui est excessive, puisque votre corps vous dit « Tiens, ça va pas terrible, peut-être il y a un problème. » Donc, il faut certainement que vous réduisiez votre consommation d'alcool. J'ai pas d'autres choses à vous dire. Et en tout cas, il n'est pas nécessaire, si vous ressentez pas le besoin, d'arrêter votre consommation d'alcool. Mais vous en avez pris conscience intelligemment et c'est le bon moment.
Est-ce que vous sentez prêt, Michel, à, on va dire, peut-être passer de 4 à 2 bouteilles, réduire de moitié, par exemple ?
Pardon ?
Est-ce que ce serait difficile pour vous, quand vous sortez avec vos amis après le travail, de réduire votre consommation de moitié ? Est-ce que ce serait compliqué ?
Eh bien, ça ne sera pas compliqué, puisque c'est la santé qui est mise en jeu. Ça ne sera pas compliqué.
Pour vous, vous sentez prêt à prendre la décision pour un petit peu réveiller du bon pied le matin, on va dire tout simplement, parce que là, c'est plutôt pénible de se réveiller dans ces circonstances en ce moment.
Oui. C'est comme je vous avais dit que, vu que j'avais fait ce constat-là, c'est pour cela que j'avais pris vraiment, je pourrais dire, congé à 2 semaines de ne plus consommer l'alcool pour voir le temps, comment le corps va fonctionner. Mm-hmm. J'ai vite compris, ça fonctionne plus régulièrement quand je prends de l'alcool, mais à petit, maintenant ça fait par jour. Aujourd'hui je peux ressentir ça, demain je peux pas, mais quand je prends l'alcool, c'est ça.
Mmh. Donc vous sentez mal, donc il faut changer un petit peu les choses. On vous souhaite une très belle journée à Brazzaville, Michel. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre appel, parce qu'on le dit aussi, c'est pas facile de raconter le rapport qu'on a avec l'alcool comme ça, avec des millions de personnes qui vous écoutent, c'est pas du tout évident, et on vous en remercie. Docteur Aubert, on va prendre d'autres questions en ligne dans quelques minutes, ce sera juste après ce titre de Xavier Omar, Surf.
Yeah. Shut the mouth. I see that look up in your eyes. I've got it too. So this ain't no real surprise. You know it's the right place at the right time, with the right mood in the mood lights. I'll show you better than I can say.
Priorité santé sur RFI, peut-on parler de ses problèmes d'alcool à son médecin ? Nous sommes toujours avec le docteur Jean-Pierre Aubert, médecin généraliste à Paris, auteur du livre « Histoire d'alcool » aux éditions du Cerf. Et on part tout de suite pour le Sénégal. En ligne avec nous, on vous retrouve. Koura, bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour Koura, vous avez derrière vous un long parcours avec l'alcool. Expliquez-nous, comment vous définissez d'ailleurs ce rapport à l'alcool ?
Alors, ce rapport à l'alcool, je le définis, bon, j'ai eu un énorme choc quand j'étais assez jeune. Mmh. Je devais avoir peut-être 18 ans, à peu près. Mmh. Et j'ai trouvé réconfort avec ma meilleure ennemie, comme je l'appelle.
La boisson.
Je l'appelle ma meilleure ennemie. Oui, mmh. tout à fait. Oui, oui, mmh. oui, tout à fait. Mais... Et bon, ça dure depuis très longtemps. Hein. Mais il y a peut-être 3-4 ans, j'ai vu un addictologue. Mmh. J'ai été suivie pendant presque 2 ans avec elle. Et elle m'a mis sous Lioresal. Mmh. Voilà.
Un médicament qui vous aide qui vous a aidé à quoi ? À freiner votre consommation ou carrément arrêter ? À freiner.
À freiner. J'ai vraiment énormément freiné. Et quand je sais que j'ai une journée qui va être difficile, je m'oblige 2-3 jours avant à ne pas arrêter. 2 matins, 2 midi, 2 soirs.
Quand vous dites vous freinez, ça veut dire qu'en même temps que prendre ces cachets, quelle est votre consommation ?
Ouh, c'est compliqué.
Ouais.
Alors, déjà, je bois de l'alcool bleu. L'alcool pharmaceutique bleu. Déjà.
C'est quoi de l'alcool bleu ? C'est dans les bouteilles bleues, vous voulez dire ?
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est de l'alcool que vous achetez en pharmacie avec un très fort taux d'alcool. C'est comme quand on prend de l'alcool à. Ah oui, carrément. Ouais, là on est au-delà on est au-delà du vieux rhum là. On est carrément dans le dur, hein.
Absolument.
D'accord.
Absolument.
Et cet alcool, alors on va dire, c'est vraiment, il y a zéro notion de plaisir. Là, on est purement dans l'ajout d'alcool dans le sang.
Voilà.
Voilà. Exact. Donc c'est pour combler un manque, hein.
Oui. Voilà. Combler un manque pour pallier des difficultés, pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais comme je voudrais qu'elles soient. Et donc ça, c'est pas possible.
Là, mais vous parlez de ce rapport à l'alcool, on va dire, de façon détachée. En même temps, vous reconnaissez les choses avec un courage incroyable. Et en même temps, on dirait que vous avez toute une réflexion. Vous avez travaillé sur cette question ?
J'ai fait des séances de psychothérapie, de thérapie, de psychiatrie pendant presque 10 ans. Hein.
Est-ce que ça vous a réconcilié avec vous-même ? Parce que finalement, c'est vrai que quand on entend des gens qui boivent, il y a beaucoup de gens qui cachent des choses, et puis il y en a qui ont un sentiment de honte. Mais vous, quand on vous entend, vous êtes transparente, vous êtes claire. Voilà, vous racontez ce qui vous arrive sans chichi. C'est ce travail qui vous a permis de faire ça ?
Oui, et puis ce travail-là avec les psychothérapeutes, mais également j'ai énormément lu sur la dépendance, sur l'addiction. J'ai compris que bon, il y avait un problème et qu'il fallait que je règle avec moi-même déjà. C'est la raison pour laquelle je suis allée voir des psychiatres. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres faits extrêmement douloureux. J'ai perdu mes deux parents, je n'ai pas pu leur dire au revoir. Et ça a été la chute, la rechute, mais vraiment très très forte. Très forte. J'ai fait des TS...
Ça veut dire des tentatives de suicide. Donc, il y a un passé dépressif très, très lourd pour vous. Vous avez été pris en charge pour cette dépression ?
Oui.
Ouais.
Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 mois, on a découvert que j'avais un cancer du sein. Bon, en même temps, en soignant le cancer du sein, j'ai revu mon psychiatre. On a discuté. Bon, maintenant, je suis en pas encore en rémission parce qu'il me reste encore des examens à faire.
Ouais.
On a enlevé la tumeur. Ça s'est bien cicatrisé et tout. Mais il y a toujours ce vide. Il y a toujours ce vide autour de moi et. C'est ce que j'ai dit à l'intervenante qui vous a
joint tout à l'heure, ouais.
Oui. Et je ne comprends pas. Et par contre, quand je prends le Lioresal, ça va mieux, ça va, mais ça va vraiment
mieux. Ça comble ce vide, ça comble ce manque. Votre témoignage, oui, oui. Il est absolument bouleversant, hein, Koura. Aussi bouleversant de courage, parce que franchement, pour raconter des choses aussi personnelles de manière si naturelle et spontanée, docteur Jean-Pierre Aubert, quand on lit votre histoire, votre livre, c'est des histoires d'alcool. Là, c'est vraiment une histoire que nous raconte Koura. C'est un parcours et c'est quelque chose de... Bah oui, on fait face à la vie, à tout ce qu'il y a dans la vie, et des fois, on a besoin de petites choses extérieures qui peuvent nous faire croire que la vie sera plus simple. J'ai bien dit faire croire.
Oui, Koura, vous avez fait un énorme chemin par rapport à votre consommation d'alcool et par rapport à votre regard sur vous-même. Moi, je suis extrêmement optimiste. Je pense que vous êtes quasiment guéri de votre difficulté avec l'alcool. Bien sûr, vous avez encore une consommation excessive, mais vous avez un tel regard et une telle distance par rapport à ce que vous êtes, et vous êtes tellement capable de vous asseoir à côté de vous-même et de vous regarder, que je suis extrêmement optimiste, parce que les trois quarts du chemin sont faits. Maintenant, il reste un petit bout de chemin à faire, et vous avez rencontré des professionnels avec qui le faire, et j'en suis très heureux. Vous utilisez des mots qui m'impressionnent. Vous dites que l'alcool, c'est votre meilleur ennemi, et j'adore cette expression. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un faux ami, et je préfère votre expression que je vais utiliser à partir de maintenant. parce que, voilà, l'alcool, c'est tellement... c'est tellement ambivalent, on a un rapport tellement ambivalent, et surtout l'alcool est un excellent médicament de la dépression. C'est ça le problème. Alors, c'est un excellent, mais un mauvais médicament. C'est un excellent médicament parce que c'est le seul antidépresseur que je connaisse qui agisse très vite. Dans le quart d'heure, dans la demi-heure au plus, on a l'humeur qui s'améliore. Et je n'ai aucun médicament à ma disposition qui ait un effet aussi rapide. Le problème, c'est que si on sort de la dépression ponctuellement, on va replonger très vite parce que la durée d'action du produit est très courte, et on va replonger plus gravement, et en fait, à chaque replongée, on plonge toujours un peu plus profond. Ce qui fait que la courbe globale de l'humeur, elle est globalement décroissante, bien qu'on ait l'impression qu'elle remonte tout le temps. C'est pas vrai, elle remonte jamais aussi haut qu'elle était précédemment. Donc c'est vraiment un très mauvais médicament, et c'est un meilleur ennemi, en ce sens que c'est difficile de l'identifier en tant que tel. Vous avez parlé du Lioresal. Le Lioresal, c'est l'un des noms d'un médicament qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, qui s'appelle le baclofène. Et pourquoi est-ce qu'il a fait parler de lui? Parce que en 2008, un cardiologue qui s'appelle Olivier Amezen a fait sur lui-même une étude tout à fait sérieuse où il a montré que à très forte dose, le baclofène diminuait de façon spectaculaire chez lui, donc chez une seule personne, une perception particulière qu'ont beaucoup de malades de l'alcool, qui s'appelle le craving, c'est-à-dire le besoin irraisonné d'alcool qui se déclenche de temps en temps. Voilà, ce type est un personnage très intéressant. Je vous incite à lire son livre qui s'appelle Le Dernier Verre. Ça a été publié en 2008 chez De Noël. Et vous allez voir un personnage qui se raconte. Il est extrêmement attachant. Il est drôle. Il a un culot absolument pas possible. Et il a effectivement réfléchi sur le baclofène. Mais une étude sur un cas, malheureusement, ça tient pas la route. Et d'ailleurs, Amezen est le premier à le dire. Il a fait cette étude sur lui-même. Et ensuite, il a dit, mais voilà, il faut des vraies études. Et le baclofène a été très...
Ce que nous dit Koura, c'est qu'a priori, sur elle aussi, ça marche.
Absolument.
Un autre cas.
Alors, exactement. Mais le baclofène a été étudié très correctement. Là, quand on fait le total de l'ensemble des études de bonne qualité, c'est-à-dire en double aveugle, on a environ 1650 patients qui ont été étudiés et on sait ce que fait le baclofène. Alors, globalement, sur ces patients, il a peu d'effet sur le craving, contrairement à ce que Omezen avait noté. Mais il a un petit effet sur la réduction de la consommation d'alcool. Il fait partie des trois médicaments qui ont un petit peu d'effet pour aider les gens à consommer moins. Voilà, c'est donc un médicament intéressant et vous le sentez sur vous-même. Moi, je vous incite à continuer ce traitement. Il n'y a pas d'interdit sur ce produit. Il y a eu effectivement dans la période où il n'avait pas encore été évalué, il y a eu quelques discussions scientifiques qui étaient parfois un peu avec des noms d'oiseaux que les gens se jetaient à la tête. Mais c'est fini. C'est un médicament qui a été bien évalué, dont on sait qu'il a un petit effet. C'est pas la révolution. C'est pas le miracle.
Mais ça peut soulager certaines personnes.
Ça peut aider certaines personnes. Il y a deux autres médicaments qui ont des effets.
Et encore là, c'est un médecin spécialiste qui peut les prescrire. Merci infiniment, en tout cas, pour ce témoignage, Koura. Et on vous souhaite une très, très bonne journée au Sénégal. Le temps nous presse un petit peu. On va prendre Gracie, qui est en ligne de Kinshasa. Hélas, on pourra vous consacrer un petit peu moins de temps, mais je voulais quand même vous donner la parole. Bonjour, Gracie.
Bonjour, Caroline.
Parce que vous voulez nous parler de votre frère. Il a 27 ans. Votre frère, il boit depuis combien de temps?
Tout a commencé il y a 7 ans,
ouais.
Passé,
ouais.
Quand son ex-copine l'a quitté brutalement.
Ouais.
Et mon frère s'est familiarisé avec l'alcool.
D'accord. Donc, il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie, un moment de tristesse. Depuis cette période, depuis toutes ces années, est-ce que votre frère a déjà essayé d'arrêter?
Essayer d'arrêter?
Oui, essayer d'arrêter.
Oui, oui, il a essayé plusieurs fois d'arrêter, sauf qu'il connaît des phases et toujours des réussites. D'ailleurs, personnellement, je commence à croire qu'il n'y a même pas de remède contre l'alcool.
Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il rechute, à chaque fois, il reboit davantage?
Oui, oui, et son addiction paraît éternelle.
Parce
qu'il a la volonté d'arrêter,
ouais.
Il n'arrête pas.
Et la famille, l'entourage, comment est-ce que vous réagissez à cette dépendance à l'alcool?
Des fois, certains montrent l'impression de les détester. Et surtout parce que quand ils voient, ils deviennent sales, vous voyez.
Ouais. Ils se négligent. Ils se négligent.
Oui.
Ouais. Et vous avez envie de l'aider ou des fois vous baissez les bras?
Personnellement, j'ai envie de l'aider.
Ouais.
Et j'aimerais donc savoir s'il existe des stratégies naturelles pour se libérer de ces démons destructeurs de la santé humaine.
Ouais.
Et il y a aussi le fait que ce frère ne mange pas bien. Il n'a pas d'appétit comme avant. En revanche, il boit en abondance. Et cette attitude en train de miner sa petite santé.
Je comprends bien. Est-ce que vous avez l'impression qu'il, d'une certaine manière, qu'il boit à la place de manger?
Ah oui, oui, ouais. Je peux dire ça.
Et il a perdu du poids?
Il a perdu du poids, il boit à verse, mais il mange peu.
Et il mange peu, et ça vous inquiète?
Très inquiétant.
Mais il vit encore sous le toit familial, vous ne l'avez pas mis à la porte? Ça peut être choquant ce que je dis, mais c'est une réalité. Hein. Bon, alors j'y vais. Hein.
Oui, c'est une réalité. Ouais. Il vit et des fois il quitte la maison pour une semaine.
Ouais.
Là, c'est lorsqu'il veut se replonger. Dans la profondeur de l'alcool.
On entend dans ce vocabulaire, vous y voyez quand même quelque chose de maléfique, hein, quasiment de mystique, de divin. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui l'habite un petit peu en plus que cet alcool?
Ben moi, je considère que l'alcoolisme, c'est un démon. Hein.
D'accord, vous prenez ça comme ça. Docteur Jean-Pierre Robert, on entend la souffrance de l'entourage, on entend Gracie, ben, il n'en peut plus de voir son frère dans cet état de déchéance. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Gracie, votre position est très complexe et très difficile. Vous êtes aux côtés de votre frère et il faut absolument que vous restiez à ses côtés. C'est extrêmement important pour lui. Votre frère, il n'est pas comme Koura. Il n'a pas fait le chemin qui l'a amené à dire « j'ai un problème d'alcool ». Il est dans un rapport à l'alcool qu'il n'a pas encore correctement identifié. Alors bien sûr, il fait souffrir son entourage. On entend à travers Gracie cette difficulté à être à côté de son frère et sa souffrance propre, la sienne, celle de Gracie, hein, indépendamment de celle de son frère. La première chose, c'est que, et vous ne l'avez pas dit, hein, mais c'est d'une façon générale, il ne faut pas faire le flic. C'est une chose très importante, c'est que quand on est proche d'un malade de l'alcool, on a envie, forcément, à un moment ou à un autre, de cacher les bouteilles,
on a envie de
râler l'antibois, de contrôler, etc. Les stratégies de contrôle sont des stratégies qui échouent et qui aboutissent à augmenter l'agressivité mutuelle de l'un pour l'autre. Donc, voilà, il faut ne pas faire le flic. Il faut affronter probablement la chose, c'est-à-dire, bien évidemment, vous avez le droit de parler avec lui d'alcool. Moi, ce que je pense, c'est que il n'y a pas de sortie de la maladie alcoolique sans désir exprimé du patient. Donc, le premier stade, il ne faut pas aller trop vite avec votre frère. Qu'est-ce qu'on vise ? On ne vise pas l'arrêt de la boisson pour lui, ni même la diminution. On vise la prise de conscience que quelque chose ne va pas et que peut-être il y aurait un bénéfice à boire moins ou à ne pas boire. Ce qui veut dire que il faut essayer de l'aider à prendre conscience et d'une façon assez neutre et assez objective. C'est-à-dire que ce que votre frère va vous dire, c'est probablement qu'il a des bénéfices à boire. Donc il faut dire, voilà, effectivement, je suis sûr que si tu bois, c'est parce que tu y trouves du plaisir ou du réconfort ou de l'oubli et tu y trouves quelque chose. Faisons le point sur les choses qui sont positives et les choses qui sont négatives. Essayons de faire un petit tableau comme ça, on va mettre à gauche tout ce qui est intéressant, tout ce qui va mieux avec l'alcool, tout ce qui fait du bien. Puis on va essayer de mettre à droite tout ce qui pose problème. Et vous allez voir que votre frère va trouver les difficultés que lui apporte l'alcool. Il va les trouver tout seul, c'est pas la peine de lui dire. C'est lui qui va avancer pour dire, ben voilà, le bilan, finalement, effectivement, quand je le regarde objectivement, il y a du pour et il y a du contre. Et avec ça, vous allez pouvoir avancer avec lui. Je vous conseille d'essayer de l'aider à partir de sa propre expérience vis-à-vis de la consommation d'alcool. Et peut-être un jour, il va avoir envie lui-même de consulter quelqu'un qui pourra l'aider.
Gracie, vous en pensez quoi ?
Oui. D'ailleurs, je voulais poser la question s'il y avait des stratégies naturelles pour lutter contre ça. Et je trouve que les docteurs viennent d'en remédier.
C'est vrai, c'est deux côtés. Essayer de voir le pour et le contre avec lui, surtout engager la discussion avec lui. On vous remercie beaucoup, Gracie, pour votre appel. On part tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Docteur Christian Ayoum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de psychiatrie à l'hôpital La Quintini. Docteur, tout à l'heure, on évoquait avec le docteur Aubert la difficulté de réfléchir sur son parcours avec l'alcool. Aussi avec un auditeur qui, en sortant du travail le soir, allait comme ça avec ses amis boire un coup. Toutes ces occasions de se retrouver autour de l'alcool. Est-ce que dans votre pays aussi, les boissons sont très présentes pour les différents événements de la vie ?
Alors, vous me rappelez ce patient qui me disait qu'il souhaitait arrêter de boire, mais que ce qui le bloquait, c'était les occasions de boire, qu'il y en avait trop. Parce que quand il y avait une naissance, il y avait de quoi boire, et quand il y avait un décès aussi, il y avait de quoi boire. Quand l'équipe de football gagnait un match, on devait boire, et quand elle perdait, il fallait quand même se consoler en buvant un peu. Donc, effectivement, autour des événements, l'alcool est souvent comme un accompagnateur, comme quelque chose qui permet de se désinhiber aussi et d'enfin révéler qui on est. On a souvent connu ici, c'est pas vraiment culturel, mais ça se voit dans les deuils, que les hommes souvent, au lieu de manifester la tristesse comme les femmes le font bruyamment en Afrique, vont plutôt aller d'abord se prendre une bonne cuite et puis revenir dire à la famille, la belle famille notamment, leur demander des comptes sur le départ de leur sœur. Donc on voit des grands timides souvent passer à l'action grâce à l'alcool. Voilà.
Pour un petit peu se défouler avec un verre. La démarche de consulter dans un service comme le vôtre, docteur Ayoum, parce que c'est sûr que c'est pas évident de reconnaître le problème d'addiction, ça vient plutôt de qui ? Du malade ou de l'entourage ?
Très souvent de l'entourage. Oui. Écoutez, c'est très rare de voir des gens qui arrivent et qui disent « moi je bois beaucoup ». Ça existe, mais si j'en ai 10 qui viennent parce qu'ils ont problématique alcoolique, il n'y en a que 0,5 qui viendront d'eux-mêmes en fait.
Tout à l'heure, quand j'ai eu Koura, une auditrice, au téléphone, j'ai dit un grand bravo, d'abord parce que c'est dur de témoigner, puis aussi parce que c'était une femme. Est-ce que précisément pour certaines catégories de la population, je pense aux femmes en particulier, on en parle souvent de ce problème de se révéler comme ayant un problème avec l'alcool quand on est femme. Est-ce que c'est vrai aussi chez vous, docteur Ayoum ?
Oui, de plus en plus on voit les femmes, on les voit consommatrices, mais sauf que c'est des consommations souvent, alors moi je vais utiliser un mot qui est très souvent féminin, maquillées en fait. C'est des consommations privées parce que elles n'ont pas, surtout le soir tombé, accès au milieu ouvert comme les hommes, le bar, le snack, quoi. Donc, du coup, c'est la jeune dame de classe moyenne qui revient du travail, qui s'arrête au supermarché, fait ses emplettes, et donc se prend une petite bouteille de vin qu'elle va utiliser comme somnifère. Mmh. Et Dieu sait qu'elle court toute la journée et qu'elles ont besoin, juste quand les enfants sont endormis, ben d'avoir un sommeil vif et direct, quoi, qui va être réparateur d'emblée avant que le petit matin ne soit arrivé. Voilà, donc c'est très souvent ça le schéma, en fait, le schéma qui est spécifique aux femmes.
Et on le sait bien, l'alcool permet de tomber de sommeil, mais après, la qualité du sommeil n'est pas bonne.
Effectivement. C'est ça, en fait. Comme disait Dr Robert tout à l'heure, c'est un bon médicament, avec bon entre guillemets, quoi. C'est un peu notre pire ami. J'ai entendu meilleur ennemi. Moi, j'inverse un peu en disant pire ami parce que, ben, il va résoudre le problème immédiatement. Mais ensuite, derrière, la qualité de la résolution n'est pas bonne parce qu'on aboutit en général dans la dépendance. Mm-mm. C'est ça, en fait, le problème, oui.
Alors, le problème, justement, bien l'identifier à celles et ceux qui sont derrière leur poste ou derrière leur téléphone en train de nous écouter. Pas évident toujours de comprendre qu'il y a un vrai problème. Alors, s'ils vous écoutent, quel repère pour se dire « là, oui, c'est vrai, j'ai peut-être quelque chose à... » Peut-être qu'il faut que je m'arrête, peut-être qu'il faut que je réfléchisse et que je pense « comment est-ce que je bois, quand je bois et quel effet sur ma santé ?» Qu'est-ce que vous voulez dire à ces auditeurs, docteur ?
Alors, ce qu'il faut leur dire, en fait, c'est que dès qu'on sent qu'on a perdu le contrôle, c'est qu'il y a un problème. La perte de contrôle est le point. Et au-delà de la perte de contrôle, il y a le fait que l'entourage commence à se plaindre. Il faut écouter son entourage. Si je perds le contrôle, ça veut dire que je n'arrive plus à me sentir heureux, je n'arrive plus à être, à avoir la stabilité des émotions, la joie habituelle et la tranquillité habituelle sans nécessiter la prise d'alcool. Ou alors si mon conjoint, mon patron, mes voisins commencent à me dire « toi, ça va pas parce que une fois tu étais à une bouteille, maintenant tu vas au-delà d'une bouteille », là il faut s'inquiéter et se demander ce qui se passe. Donc... moi, je pense que c'est là le point de départ. Et puis, comme disait Dr Robert tout à l'heure, je pense qu'il y a un chemin à faire. Il faut chacun se questionner de où on en est, en fait, avec l'alcool. Quand c'est lui qui commande, ce n'est pas bon. Alors, quand sur le chemin, on arrive à se lire comme si on était son propre thérapeute, qu'on arrive à garder le commandement de sa vie, je le dis ainsi, ben, c'est que là, on commence à bouger un peu et le mouvement est en route, quoi, pour en sortir.
C'est un cheminement de sagesse en même temps.
Oui, c'est un cheminement de sagesse, c'est une appropriation de soi. C'est le fait de ne pas se laisser guider, mais de prendre soi-même la direction de son existence. Parce que quand on devient dépendant, en fait, on perd un peu le contrôle. On garde le contrôle jusqu'à entrer dans la substance. Et dès que la substance prend le relais à, je sais pas, à 19h le soir, ben, on devient juste une sorte de pilote automatique soumis à sa substance. Donc le but, c'est qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on fasse le bilan de ce qui va, ce qui va pas, de ce qui fait mal, ce qui fait pas mal, de ce qu'on ne peut pas s'avouer aussi. Parce que les angles morts de la pensée, pour parler comme ceux qui posent les caméras, les angles morts de la pensée sont ceux qui nous piègent le plus, en fait. Et c'est là qu'il faut faire le travail.
J'échangerai encore très longtemps avec vous, docteur Ayoum. Hélas, le temps passe très vite. Même chose pour vous, docteur Jean-Pierre Aubert. On avait d'autres auditeurs, on avait d'autres questions. Ça passe très très vite. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je vous réinviterai. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire et vous avez beaucoup de conseils très simples et qui sont pas angoissants mais qui sont vraiment une réflexion à partager avec nos auditeurs. Merci beaucoup.
Ce sera avec le plus grand plaisir.
Merci. Je redonne le titre de ce livre dans lequel je vous invite à vous plonger. Histoire d'alcool, peut-on en parler à son médecin ? Parce qu'il y a aussi à la fin tout un tas de petits repères. On parlait tout à l'heure des symptômes. Ces petites choses qui, quand on arrête, vont... finalement, ça dépend des personnes bien sûr, mais aller mieux du jour au lendemain et on se dira comme ça, ça valait le coup de freiner, ça valait le coup même parfois d'arrêter. Et ce livre, il est publié aux éditions du Cerf.
Priorité santé sur RFI.
Et on reste à Douala, hein, comme tout à l'heure avec le docteur Ayoum, puisqu'il y a un congrès scientifique qui s'y tient jusqu'au 16 octobre, la conférence interdisciplinaire et transversale de la santé. Vous en êtes le président du comité d'organisation, docteur Jean-Louis Ngwewa. Bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ?
C'est très bien prononcé. Bonjour à vous. C'est bien Ngewa, c'est ça.
C'est ça. Endocrinologue de profession. Alors, l'événement est organisé par l'Association des médecins du Cameroun. Cette année, un coup de projecteur sur les maladies chroniques. Hein, on le dit souvent dans Priorité Santé. Fardeau financier, ces maladies non transmissibles. Et un vrai fardeau, y compris dans le contexte de l'Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. Vous savez, donc globalement dans le monde, chaque année, il y a à peu près 40 millions de personnes qui meurent de maladies non transmissibles. C'est beaucoup plus que des maladies infectieuses. C'est à peu près 71% des décès totaux dans le monde. Et en Afrique, pour les sujets âgés, on va dire de plus de 45 ans, c'est à peu près 50% des décès. Donc les maladies non transmissibles sont un vrai problème de santé publique qui nécessite un regard pertinent. Par ailleurs, on a souvent opposé un petit peu une prise en charge des maladies non transmissibles et des maladies infectieuses. Mmh. Donc, on a remarqué depuis donc plusieurs décennies maintenant qu'il y avait une corrélation, voire un accompagnement, voire une relation entre le fait d'avoir une infection et le fait aussi donc de développer une maladie non transmissible plus tard, ou bien d'avoir une maladie non transmissible et puis de qu'elle soit accompagnée donc par différentes infections.
Et on l'a vu donc, encore plus, on va dire, hein, docteur Ngewa, dans le contexte du Covid, de la Covid-19, on a bien vu que on parlait de comorbidité, hypertension artérielle ou obésité sont des choses qu'on retrouve tout à fait dans le contexte du Cameroun, de l'Afrique centrale, que ça rendait la personne beaucoup plus vulnérable à une infection respiratoire.
Tout à fait. Vous savez, donc, le Cameroun ne diffère pas en termes de chiffres ou bien de pourcentage en ce qui concerne les maladies non transmissibles par rapport à l'Europe ou bien le reste du monde. Vous savez, la moitié des sujets qui ont une hypertension artérielle ne se savent pas hypertendus. Mmh. Donc ceux qui développent un diabète au Cameroun, on va dire, il y a 10-15 ans, c'était autour de 6%. Les derniers chiffres montrent un chiffre stable autour de 6%, mais peut-être que ça va monter un petit peu plus. Et on attend une augmentation du diabète d'ici 2030 qui monterait pas loin de 7 à 9 10% pour l'Afrique. Donc on va rattraper un petit peu les pays asiatiques qui ont à peu près le même chiffre.
Donc une double problématique, excusez-moi, parce que le temps, il nous reste environ une minute. Maladie non transmissible, infection. Je voulais pour terminer que vous nous fassiez passer les grands messages justement à l'occasion de votre événement, de ce congrès scientifique de la conférence interdisciplinaire et transversale de santé.
Oui, les grands messages sont ceux-ci. Premièrement, c'est que les médecins généralistes sont au centre de la prise en charge. On doit regarder les maladies non transmissibles et les médecins généralistes sont ceux qui sont au devant, en premier, pouvoir repérer ces patients-là. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que le système de santé s'adapte mieux à la prise en charge de ces maladies-là pour réduire l'impact et surtout, en fait, arriver à faire plus de prévention. Mmh. Vous savez, les maladies non transmissibles sont associées surtout à la pauvreté et puis les personnes qui ont peu de moyens vont épuiser donc leurs ressources financières dans ces maladies-là. Donc il était important pour nous, cette association des médecins du Cameroun, d'avoir cette conférence-ci pour que tous les professionnels de la santé se mettent ensemble, discutent, parlent, échangent et trouvent des moyens pour trouver des solutions par rapport à cela.
Ça veut dire aussi auprès des autorités camerounaises lancer des appels pour davantage de campagnes et de programmes de sensibilisation.
Tout à fait. On a reçu le soutien donc du ministre de la Santé, du gouverneur de la région qui est là, l'Ordre national des médecins du Cameroun qui nous suit aussi. Ils nous ont tous appuyés pour l'organisation de ce congrès et puis ils continueront à le faire. On a aussi beaucoup de partenaires, donc c'est un laboratoire qui nous appuie, mais surtout les médecins du Cameroun qui ont décidé en fait eux d'agir directement donc pour la prévention.
Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Louis Ngewa, et très très bonne journée à vous à Douala. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez tous à maquer. Raphaël Clusva, Didier Bleu, Laurence Thon et avec nous aujourd'hui Valérie Christian Mouzigoura. Demain dans Priorité Santé, émission spéciale question de femmes, les relations familiales en particulier, belle-mère, belle-fille, soutien tyran, amis, ennemis, vos témoignages, vos questions. Ce sera demain 9h10 temps universel. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.